RFI, grand reportage.
Je n'ai rien mangé aujourd'hui. On ne mange plus le matin ni le midi, seulement le soir. J'ai 500 naira dans ma poche. Avec ça, je ne sais même pas quoi acheter. Un morceau de pain qu'on payait avant, 150 naira, coûte maintenant le double. Et je ne parle même pas d'un gros morceau.
Une monnaie qui s'effondre et une inflation qui monte en flèche. Quand Bola Ahmed Tinubu est investi, nouveau président, en mai 2023, il annonce des mesures choc pour l'économie du Nigeria. Levée d'une partie des subventions sur l'essence qui grévait sévèrement le budget de l'État et retour à un taux de change flottant pour le Naira, la devise nationale, dont la valeur était jusque-là garantie par la puissante banque centrale du Nigeria. Mais ces réformes n'ont pas eu les effets escomptés pour la population nigériane comme pour les investisseurs. Les temps sont durs. Le Nigeria face à la crise économique, c'est un grand reportage de Lisa Fabien.
C'était le 29 mai 2023, le jour de la cérémonie d'investiture du nouveau président nigérian, Bola Ahmed Tinubu, au sein d'Eagle Square à Abuja. En plein discours inaugural, le nouveau chef de l'État a soudain dévié du script officiel et fait une annonce que personne n'avait vu venir aussi vite.
Au sujet des subventions sur les importations de carburant, malheureusement, au vu du budget établi avant ma prise de fonction et d'après les informations que j'ai pu recevoir, il n'y a plus de provision pour ces subventions. Les subventions sur l'essence n'existent plus.
Une petite phrase avec de grandes conséquences, puisqu'en moins de 48 heures, le prix de l'essence a quasiment triplé au Nigeria, passant de 200 naira à presque 600 naira le litre. Sonia, une habitante du quartier populaire d'Obalende à Lagos, se souvient du choc ressenti par les plus pauvres.
Supprimer les subventions sur l'essence, c'était nécessaire pour que l'État puisse éponger ses dettes et fasse des économies. Mais ce n'était pas censé arriver aussi vite après l'élection du nouveau président. Il aurait fallu que les gens soient mieux informés, qu'ils puissent se préparer à la flambée des prix. Mais nos dirigeants ont fait ça comme ça, sans nous donner d'explications, sans nous dire que tout allait augmenter.
Et les réformes ne se sont pas arrêtées là. Au mois de juin, la Banque centrale du Nigeria a annoncé une dévaluation du Naira pour tenter d'unifier un régime de taux de change multiple et complexe. Mais la devise nationale a rapidement dévissé face au dollar, au point de perdre 70% de sa valeur en l'espace de quelques mois. L'inflation déjà élevée a explosé au Nigeria, jusqu'à frôler les 30% en ce début d'année. Une situation ingérable selon Belkis, qui fait cuire une bouillie à base de haricots dans une grosse marmite plantée en pleine rue.
Pendant le ramadan, j'ai l'habitude de cuisiner pour l'iftar. Ça fait 3 ans que je fais ça pour la communauté. Mais cette année, j'ai du mal à trouver les fonds nécessaires. Le prix de la nourriture est vraiment trop élevé. Par exemple, ces haricots, l'année dernière, on achetait un sac pour 50 000 ou même 30 000 naira. Mais cette année, c'est plus de 100 000 naira. C'est vraiment, vraiment délirant et nous n'avons pas le choix. Le prix du transport est aussi très élevé. Donc ce que font les gens, c'est qu'ils descendent du bus à mi-chemin et ils font ensuite l'autre moitié à pied. C'est comme ça qu'ils essaient de faire des économies. Tout le monde se plaint, mais on continue d'espérer voir un jour un meilleur Nigeria. Pour que les choses s'améliorent, il faut sans doute passer par une période difficile. Donc nous disons juste merci à Dieu d'être encore en vie et de réussir à nous mettre quelque chose sous la dent.
Mais l'optimisme à toute épreuve des Nigérians commence bel et bien à s'éroder. Dans son bureau de Lekki, Michael Famorotti a du mal à cacher son inquiétude. Au sein du cabinet d'analyse Steers, il a suivi de près le déroulement des dernières élections, marquées par des irrégularités et des violences. Désormais, il scrute la dégradation inexorable des indicateurs économiques.
Le nouveau gouvernement a fait preuve de beaucoup d'impatience. Tout le monde sait que Bola Tinubu est le président le moins bien élu de toute l'histoire démocratique du Nigeria, vu qu'il n'a obtenu que 35% des suffrages. Donc il a voulu renforcer sa légitimité en agissant le plus vite possible. Sauf qu'en faisant ça, le chef de l'État a enclenché un compte à rebours. Ces réformes ont des conséquences terribles sur l'économie, donc il faut absolument qu'elles produisent des effets positifs au plus vite. Mais la levée des subventions sur l'essence s'est faite trop rapidement. Pour faire du Nigeria un pays où le prix de l'essence est déterminé par les fluctuations du marché, il faut d'abord s'assurer qu'il ne risque pas d'y avoir une volatilité importante du prix du pétrole. C'est pour ça que les observateurs supposaient que les subventions ne seraient retirées que lorsque la méga raffinerie construite par Aliko Dangote serait fonctionnelle, ce qui n'est toujours pas le cas. La deuxième erreur, c'est la manière dont ils ont voulu réformer le marché d'échange. De nouveau, ils ont libéralisé dans la précipitation, sans même connaître précisément les réserves dont bénéficiait la Banque centrale. Pour résumer, ils ont déclaré la guerre, mais sans connaître la taille de leur armée. Leur raisonnement, c'était de se dire qu'ils allaient attirer des dollars sur le marché. Mais malheureusement, ils ont complètement sous-estimé la défiance qui croît depuis 10 ans vis-à-vis de ce marché. Ils n'ont pas pris en compte les craintes des gens qui refusent de réaliser leurs transactions sur le marché d'échange officiel. En fait, ils ont ouvert les vannes en espérant que les dollars se mettraient à circuler. Sauf que tout ce qui s'est passé, c'est que les dollars n'ont fait qu'une seule chose, quitter le pays.
La crise touche presque tout le monde au Nigeria. Même dans les quartiers chics de Lagos, l'ambiance est de plus en plus morose.
Les gens sortent moins. Hier, tous les endroits où on a l'habitude d'aller étaient à moitié vides. Les gens dépensent moins, ils se serrent clairement la ceinture. Mais bon, à l'aéroport, les avions sont toujours pleins. Les gens continuent de voyager.
Ife Bakare est directeur de la stratégie et de l'innovation chez MedPlus, la compagnie fondée par sa propre mère il y a presque 30 ans.
Nous sommes la plus grosse chaîne de pharmacie du Nigeria. Nous comptons 120 magasins actuellement et nous prévoyons d'en ouvrir 40 de plus l'année prochaine. Nous avons plus de 1000 salariés et nous sommes présents dans 16 États fédérés.
Quelle est la situation en ce moment pour vous ? Est-ce que vous êtes inquiet ?
Si quelqu'un vous dit qu'il n'est pas inquiet, c'est qu'il est en train de mentir, parce que nous n'avons jamais été confrontés à une situation pareille. Bien sûr, il y a déjà eu des dévaluations. C'est arrivé en 2016, l'année où je suis revenu au Nigeria. Et c'était déjà arrivé lors de la toute première présidence de Muhammadu Buhari, dans les années 80. Il n'est pas inhabituel que des pays passent par là, comme le Venezuela, l'Argentine ou le Liban, mais cette fois, la dévaluation va de pair avec une forte inflation. En plus, il y a beaucoup d'insécurité au Nigeria. Et tout ça alors qu'un nouveau gouvernement vient d'arriver au pouvoir. Donc il y a énormément d'incertitudes. En tant que business, nous sentons bien que les gens dépensent moins. Ceux qui achetaient avant une boîte de vitamine C à 10 000 naira vont se tourner vers une option à 3 000 ou 5 000 naira, par exemple. À côté de ça, il y a de l'inflation et les prix s'envolent. Ce que nous vendions l'année dernière pour 5 000 naira est maintenant affiché à 7 000 ou 8 000 naira, vu le taux de change actuel. Et même si nous enregistrons une croissance de nos revenus d'une année sur l'autre, en réalité, nous avons vendu moins de produits.
Et en tant que Nigérian, vous vous sentez comment ?
C'est dur, c'est très dur. Mes employés ont du mal à venir travailler. Le prix des transports est trop élevé, alors que les salaires n'ont pas augmenté. Nous devons leur accorder des prêts, des bonus, juste pour les aider à traverser la tempête. Nous réfléchissons même à construire des logements près de nos bureaux. Comme ça, ils n'auront plus à traverser les ponts tous les jours, ni à rester bloqués des heures dans les bouchons.
Et une augmentation des salaires ?
Nous sommes une entreprise commerciale. Oui, nous avons fait quelques efforts, mais on doit rendre des comptes à nos actionnaires. À la fin, et tout le monde sait bien que les marges sont très faibles dans le secteur du retail, donc notre budget est serré.
Circuler à Lagos, c'est un sport de combat pour des milliers d'employés qui doivent maintenant piocher dans leurs économies juste pour se rendre au bureau. Pour subvenir aux besoins de sa femme et de ses 4 enfants, Happiness cumule 2 jobs de garde de sécurité payés chacun au salaire minimum, c'est-à-dire moins de 20 euros par mois au taux actuel.
Moi, je n'ai rien mangé aujourd'hui. J'attends le soir, comme ça je pourrai prendre mon dîner. On ne mange plus le matin ni le midi, seulement le soir. Vous voyez, j'ai 500 naira dans ma poche. Avec ça, je ne sais même pas quoi acheter. Un morceau de pain qu'on payait avant, 150 naira, coûte maintenant le double. Et je ne parle même pas d'un gros morceau. Quant à mes enfants, ils mangent des nouilles. Et même si ça ne leur suffit pas, on ne leur donne rien de plus quand ils sortent de l'école. Leur mère s'arrange juste pour cuisiner un peu de gari, de farine de manioc pour le repas du soir. Chacun fait comme il peut. Moi, en tout cas, je n'ai plus aucune épargne sur mon compte en banque. Quand l'ancien président Muhammadu Buhari était au pouvoir, il a décidé de fermer les frontières en disant que le Nigeria allait produire sa propre nourriture. C'est là que l'inflation a commencé. Et puis, Tinubu a pris le pouvoir. Et lui, il a annoncé la fin des subventions sur l'essence.
Et pour l'électricité, vous faites comment ? Vous avez un générateur à essence ?
J'ai un petit générateur, oui. Mais je ne m'en sers plus, parce que l'essence coûte trop cher. Je ne peux pas me permettre de le faire tourner.
Et avant ?
Oui, bien sûr. Avant, avec 200 ou 300 naira, je pouvais déjà le remplir un peu. Mais aujourd'hui, je ne peux plus me permettre d'acheter 5 litres. De toute façon, c'est seulement quand on a mangé à notre faim qu'on peut commencer à se soucier de l'électricité. Est-ce que vous croyez qu'on pense à acheter de l'essence quand les enfants pleurent parce qu'ils ont le ventre vide ?
Des distributions alimentaires ont lieu depuis quelques semaines à l'initiative des gouvernements locaux, mais la crise qui frappe le pays prend d'autres formes. L'accès à l'électricité est de plus en plus difficile, même à Lagos, même sur les îles, et même dans l'immeuble flambant neuf avec vue sur la lagune dans lequel vit Toyosi Abolarin. Celui-ci affiche pourtant sa bonne humeur, malgré le bruit des générateurs qui vont mis en contrebas.
Personnellement, je pense que le Nigeria est le meilleur pays du monde. J'adore vivre ici. Bien sûr, je suis assez privilégié pour pouvoir voyager quand je veux, mais je crois aussi fermement que là où il y a des problèmes, il existe aussi des opportunités. Il n'y a plus aucun problème à résoudre en Occident, alors qu'ici en Afrique, il y en a plein. Vous voyez, pas d'électricité. Tout ça, ce sont aussi des opportunités économiques. Ici, je sais que je peux devenir quelqu'un.
Toyosi a fait toutes ses études au Nigeria et c'est là qu'il a bâti sa carrière, dans la fintech, la technologie et l'innovation financière. C'est l'un des secteurs les plus touchés par la fuite des cerveaux, un phénomène baptisé Jakpa au Nigeria.
Il y a deux secteurs qui sont très affectés, c'est la santé et les technologies. Énormément de médecins quittent le pays, mais aussi beaucoup de bons ingénieurs. Et ils ne font pas que quitter le pays, ils préfèrent aussi travailler pour des entreprises internationales sur place. Du coup, c'est très difficile de trouver un bon développeur localement, car ceux-ci préfèrent vivre à Lagos, mais être payés en dollars par une société américaine, par exemple. À un moment donné, les applications bancaires n'arrêtaient pas de dysfonctionner à cause de ça. D'ailleurs, l'année dernière, mon gestionnaire de compte n'arrêtait pas de changer, parce que le dernier venait juste de partir pour le Canada et que le suivant venait juste de partir en Grande-Bretagne et celui d'après venait juste de partir aux États-Unis. Donc oui, c'est une réalité. Mais je crois que c'est en train de se calmer, parce que ça devient trop cher de partir à l'étranger vu le taux de change. Et puis la Grande-Bretagne a un peu durci les règles sur l'immigration, donc en fait, il y a moins de départs à l'étranger.
En 2023, l'immense diaspora nigériane a envoyé plus de 20 milliards de dollars au pays. Toyosi s'est lui-même spécialisé dans les solutions pour les transferts de fonds depuis et vers l'étranger, en utilisant notamment les crypto-monnaies. Un sujet sensible au Nigeria, depuis que la Banque centrale s'est engagée dans un bras de fer avec Binance, la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde, accusée d'encourager la spéculation et de saboter l'économie nationale.
Toutes ces plateformes appliquent un taux de change spécifique entre le Naira et les coins. Mais qui contrôle ces taux ? La différence avec le taux de change officiel peut être de 20 ou même 30% parfois. Du coup, les banques ont leurs propres taux, les services de transfert de fonds ont leurs propres taux, les bureaux de change ont leurs propres taux. Il y a tellement de taux différents. Si je pars en voyage dans un pays développé aujourd'hui, je vais savoir quelle est la valeur de l'euro ou du dollar, par exemple. Mais dans un pays comme le nôtre, tu peux aller voir 10 opérateurs différents et chacun aura son propre taux de change. Et c'est justement l'un des problèmes que la Banque centrale essaie de régler.
Le Nigeria se classe en tête des pays où l'adoption des crypto-monnaies est la plus forte au monde. Et selon Toyosi, les efforts de la Banque centrale pour contrer cette tendance ne font que pousser les utilisateurs à se tourner vers d'autres plateformes comme WhatsApp ou Telegram pour réaliser leurs échanges. L'effondrement du Naira a aussi des conséquences pour les travailleurs étrangers installés au Nigeria. Les nombreux ressortissants béninois qui avaient émigré, attirés par la croissance économique du géant nigérian, ont maintenant du mal à rentrer chez eux. Cette situation n'arrange pas non plus les affaires de Baba Ag Hamzata qui vend des bijoux et des objets en cuir sur la plage de Tarkwabe à Lagos.
Au Mali, je viens de Bamako, mais je suis de la région de Kidal. Je connais Lagos depuis 1998. J'ai fait va-et-vient.
Comment ça se passe le business et c'est quoi la situation aujourd'hui en tant que personne qui vient d'un pays où il y a des CFA et qui travaille ici avec le Naira?
Vraiment, ici, le temps est dur quoi maintenant par rapport à avant. Avant, avec 350 Naira, on gagne 1000 francs CFA. Mais maintenant, c'est monté jusqu'à 2800. 2800 Naira, ça trouve 1000 francs CFA. Et en plus, ici, la vie est chère maintenant par rapport à avant. Tous les mondes plaire.
Du coup, c'est pas bien pour vous, mais par contre, pour les gens qui sont à la frontière et qui peuvent faire du commerce avec le CFA, c'est plus intéressant.
Maintenant, c'est les gens du Niger qui viennent acheter des choses ici, et ils les ramènent pour les vendre cher, ou bien les gens de Bénin rentrent au Nigeria pour acheter des choses, pour retourner dans leur pays pour vendre ça cher aussi. Parce que la monnaie du Naira, là, c'est tombée, le CFA a monté. Si ça continue comme ça, c'est pas bon pour nous. Nous, les artisans quand même, qui fait le travail à la main, notre matériel, on paye ça en argent de CFA là. Et on travaille, et on amène le travail au Nigeria, et puis souvent, on n'a pas de bénéfice.
La volatilité de la monnaie est aussi très pénalisante pour les investisseurs étrangers qui avaient tout misé sur le Nigeria il y a quelques années. Même les entrepreneurs nigérians commencent à s'intéresser à d'autres marchés.
Mon nom c'est Steve Dakei Kamga, je suis président de French Tech Lagos. Je suis aussi cofondateur et CEO de Betastore, donc qui est une start-up dans le B2B e-commerce qui opère au Nigeria, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Donc ça fait 8 ans que je suis au Nigeria maintenant. Historiquement, quand on est une entreprise basée au Nigeria, enfin sur une zone anglophone, c'est plus facile de se développer sur des pays comme le Ghana, le Kenya, peut-être l'Afrique du Sud. La difficulté sur les dernières années de ces économies, c'est que les monnaies ont subi énormément de baisse. Le Ghana, qui il y a encore 4 ou 5 ans, était un peu une locomotive en Afrique de l'Ouest, est maintenant dans une situation très très compliquée. Le Kenya a subi sur les derniers mois aussi beaucoup de pression sur leur monnaie. Les opportunités, si on veut rester que sur les pays anglophones, sont de plus en plus limitées. Donc il faut aller à la prochaine frontière et la plupart des entrepreneurs essayent de comprendre comment appréhender l'Afrique francophone. Parce que quand tu investis au Nigeria, même si tu fais une croissance x2 du chiffre d'affaires, en local currency, en valeur dollar, tu es dans le meilleur des cas plat, en fait, pas de croissance. Et on voit l'avantage de marchés comme la Côte d'Ivoire qui sont beaucoup plus stables d'un point de vue monétaire, avec une croissance assez intéressante, pas mal d'opportunités dans différents secteurs.
Dans cette situation, il devient aussi plus intéressant de miser sur les exportations, alors que le Nigeria est traditionnellement un très gros importateur.
Maintenant, c'est limite une question de survie, quelque part. Puisque si des Unilever, des GSK, etc. ferment boutique, quittent le Nigeria, changent leur modèle complètement, c'est-à-dire que la pression est tellement forte que même les acteurs locaux doivent absolument réfléchir à ouvrir des corridors d'exportation ou tellement de développement en local, en zone CFA. Et aussi, il y a un intérêt des pays en zone CFA aussi d'attirer des partenaires qui peuvent amener leur expérience, qui sont capables de prendre plus de risques, plus agiles, parce que d'où ils viennent, le risque est déjà beaucoup plus élevé.
Ces derniers mois, plusieurs multinationales ont quitté le Nigeria, à commencer par l'américain Procter & Gamble, qui avait pourtant beaucoup investi sur place. D'autres compagnies ont dû faire face à une chute vertigineuse de leur chiffre d'affaires, des pertes liées à la dévaluation brutale du Naira. Un an après son élection, le président Bola Tinubu fait face à la pire crise économique qu'ait connue le Nigeria depuis des décennies, une situation qui fragilise un peu plus le pouvoir en place au moment même où l'insécurité explose de nouveau dans le nord du pays.
Le Nigeria face à la crise économique, un grand reportage de Lisa Fabian, réalisation Eva Piedel.
I'm collecting dollars. They wonder how I spend it to my best.